C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Giuseppe Tomasi di Lampedusa, écrivain, né en 1896, mort en 1957, italien, politique, droite, hétérosexuel, en tout cas marié. Il a vécu sous l'emprise de sa mère, tant et si bien que sa femme, après 2 ans de mariage, est retournée dans sa Lettonie natale pour plusieurs années. Œuvre Le Guépard, publiée en 1958 sous le même titre italien Il Gattopardo, première traduction en français en 1959, nouvelle traduction par Jean-Paul Manganaro en 2007. Personnage dont Fabrizio Corbera, prince de Salina. Adaptation Le Guépard, film par Luchino Visconti, 1963, interprète du personnage Burt Lancaster. Certains mots sont comme des piles chargées de signification morale. Pas le mot pile, qui n'a que sa signification objective, mais le mot prince. Il est très rarement pris dans son sens positif de chef d'une principauté. On y ajoute une forte dose émotive d'admiration. C'est dû au conte de fées, à l'entreprise générale d'anesthésie du monde appelé Hollywood, et au fait que nous vivons dans des sociétés démocratiques. Dans les sociétés aristocratiques, tout le monde a un sens précis des titres, puisqu'ils ont socialement cours, et on perçoit les nuances entre baron, marquis, prince. Dans les sociétés démocratiques, le mot prince est devenu le réceptacle de tous les prestiges des autres mots. Il a tendance à vouloir dire prince charmant. C'est contre toute raison, contre toute observation. Nous avons tous vu dans des magazines ou sur internet des princes à coups de bûche, à l'œil tort, venaient de naver, ayant échoué en tout, mais voilà le prestige. Cette drogue encouragée par nous-mêmes pour nous faire des vies rêvées, c'est-à-dire ensommeillées. La littérature, les personnages de fiction en particulier, sont des décapeurs de prestige. Et c'est pour cela qu'ils sont indispensables et persécutés par les pouvoirs. Je rappelle que, dans la France de Vichy, il était recommandé de ne pas représenter Tartuffe. Pétain s'était reconnu. Qu'est-ce que c'était un prince ? Notons que ce n'est pas un titre français, il n'y avait pas de prince sous la monarchie française, seulement à partir de Louis XIV des princes du sang, appellation générale pour désigner les enfants du roi et ses descendants, et quelques princes de maisons étrangères dont le titre avait été accepté par lui. Des princes en Italie, il y en a beaucoup, dans la famille Colonna, dans la famille Borghese, et puis des princes siciliens. Giuseppe Tomasi, né à Palerme à la fin du XIXe siècle, était duc de Palma, baron de la Torrette, à Grande Espagne de première classe et prince de Lampedusa. Sachant très bien ce que c'était, il a écrit un roman sur le dernier prince d'une famille de Sicile, le Guépard. Pour parler de Fabrizio Corbera, prince de Salina, duc de Querchetta, marquis de Donna Fugata, je reçois Jean-Paul Manganaro, traducteur du roman Le Guépard, aux éditions du Seuil. Jean-Paul Manganaro, à quoi ressemble Don Fabrice, ou plus exactement, à quoi ressemble-t-il à différentes époques de sa vie, puisqu'au début du roman, il a 45 ans, et à la fin, quand il meurt, il en a 73.
Oui, mais ce qui compte, c'est les 43 ans et l'année dans laquelle se déroule tout le roman, parce qu'en fin de compte, ça se passe en un an. Mais vous avez fait une petite erreur, quand même, dans votre énonciation des, non pas des titres, mais des qualités du prince. C'est que vous le donnez comme italien. En fait, non, il est sicilien, ce qui change tout. En 1860, l'Italie n'existait pas encore, en fait. Donc, il s'agit de ce dernier de dynastie tout à fait sicilien. Sinon, on ne comprend pas l'histoire si on ne l'adapte pas à sa géographie, en fait.
Alors, à quoi ressemble-t-il ?
Eh bien, il ressemble, dans le roman, il est imposant. Hein, il est dit que de sa tête, il touche...
Les lustres.
Les lustres, oui. Il dit, il n'est pas gros, mais il est vraiment imposant. Hein, et c'est ce prestige qui émane de lui de manière naturelle, d'une certaine manière, et qui est constamment relié à une qualité du temps. Hein, une qualité du temps. Il ressemble à un homme qui est d'abord plein, satisfait, heureux. On peut dire ça comme ça. Pas toujours dans les mêmes occasions, mais enfin, il est heureux quand il regarde les étoiles, quand il peut les compter, quand il peut parler avec les étoiles, parce que ce sont les seules entités avec lesquelles on puisse parler muettement. Ça, c'est très important, en fait. Hein. On n'a rien à dire, et pourtant, on se parle.
Il est sicilien, mais sa mère est allemande. D'où vient qu'il est blond, d'ailleurs?
C'est une des conditions possibles de sicilien. Je vous rappelle que Frédéric II de Suède avait une mère sicilienne et un père allemand, en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose comme une continuité dans cette noblesse qui n'a jamais été sicilienne, finalement, en fin de compte, puisque Constance était, elle, normande aussi. Donc, ce sont des mélanges étranges, en fait, en Sicile. Et...
On dit que le personnage a été en partie inspiré par l'arrière-grand-père de Tomasi, un certain Giulio Tomasi.
Voilà, c'est ce qu'on dit, effectivement. Pourquoi pas, enfin bon, oui.
Parce qu'il y avait un point de ressemblance, je crois, c'est l'observatoire, non?
Peut-être que le dessin général du prince du Guépard, en fait, est cet arrière-grand-père. Homme de science, positiviste, regardant les étoiles, etc. C'est évident aussi qu'il y a toute une part autobiographique de Tomasi de Lampedusa lui-même, sauf qu'il ne chassait pas, je ne pense pas, et qu'il ne regardait pas vraiment les étoiles, sinon celles de la littérature, en quelque sorte. Hein. Cet écho d'un romantisme léopardien de la lune et des étoiles, en fait. Car c'est un motif culturel, en fait.
Il faut dire que c'est le seul roman de Lampedusa et qu'il a écrit à la fin de sa vie. Pour le coup, il a été un amateur distingué, on dirait ça.
Un amateur distingué, mais il a écrit quand même un grand chef-d'œuvre, c'est le professeur à la sirène. Et à part le guépard, évidemment. Ah, bon.
Et est-ce que vous ne diriez pas qu'il y a aussi, moi je pense que l'art naît de l'art et que les personnages naissent des personnages, et il me semble qu'il y a dans Fabrizio quelque chose du duc de Guermantes dans Proust. Il y a le même côté hiératique, le même côté satisfait, jouisseur. Est-ce que vous diriez qu'il y a de cela?
Bien sûr, oui, oui, mais... Tomasi de Lampedusa est un grand amateur de littérature française. Je dirais quand même que son personnage principal doit beaucoup à Stendhal, en fait, au Fabrice de Stendhal, Fabrice de la Chartreuse de Parme, en fait.
Mais comment il peut avoir un rapport avec Fabrice qui est un tout jeune homme?
Il n'y a pas de rapport de consanguinité, non. C'est un rapport
intellectuel.
Purement intellectuel. Il aime beaucoup Stendhal.
Il a donné des cours sur Stendhal.
C'était des cours très particuliers, c'était des cours presque privés pour deux garçons de la bonne société palermitaine. Un d'ailleurs, c'était son neveu.
Lanza,
oui, Gioacchino Lanza, Thomas, et l'autre c'est Francesco Orlando. C'était des cours très particuliers de littérature française et de littérature anglaise. Et donc il était un très grand connaisseur de ces deux littératures. Il n'a jamais vraiment travaillé.
En tout cas, le personnage de Don Fabrizio est présenté dès le début du livre comme une figure mythologique. Il est comme s'il était, il est sous un plafond orné et baroque. Il est comme s'il était la réincarnation sur la terre des dieux de ce plafond, non?
C'est le prince se voit dans une sorte d'Olympe. C'est certain. Hein. Non seulement la décoration de ce palais évoque des figures de la mythologie. Ce qui est important, il me semble, dans les différentes considérations que fait le prince, c'est l'absorption, d'une certaine manière, d'une idée de l'éternité, en fait. Et cette éternité ne peut être décorée que par la mythologie classique, même si elle s'inscrit dans le religieux catholique, enfin, ou chrétien, en tout cas. Ça commence quand même avec... la récitation du rosaire, hein. Et le premier chapitre s'achève aussi sur cette récitation. Et donc, c'est l'évaluation de sa situation personnelle à l'intérieur de ces mondes, tous les deux mythiques, hein. D'une part, le mythe grec et romain, d'autre part, le grec chrétien, en fait, l'éternité chrétienne, en fait.
Alors, il est comme une espèce d'Atlante supplémentaire dans son palais, comme ça, très raide et très sûr de lui et très conservateur. Mais vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Paul Manganaro, le roman commence à un moment très, très important dans l'histoire de l'Italie, qui n'est pas encore l'Italie.
Oui.
C'est le débarquement de Garibaldi en Sicile.
Il débarque avec un petit bateau, avec 1000 personnes. C'est le débarquement des 1000, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Il part de Quarto en Ligurie en 1859, il arrive en 60
à Marsala.
À Marsala, et là, donc, il y a des révoltes tout de suite, très faites par le peuple,
spontané,
en fait.
Hein. Oui. Et donc, le prince, lui, fait partie, donc, la Sicile, à l'époque, fait partie du royaume des deux Siciles, qui sont les Bourbons de Naples, n'est-ce pas? Et donc, Garibaldi renverse cette monarchie au profit d'une famille qui n'est pas, enfin pas immédiatement, mais d'une famille que le prince Don Fabrizio ne doit pas considérer avec beaucoup d'estime, car ce sont les Savoies, et les Savoies, c'est pas une des familles les plus prestigieuses d'Italie.
Non, ils sont même méprisés, pas seulement par les Siciliens ou les rois Bourbons de Sicile, même à Rome. Dans tous les états pontificaux, il n'y a pas beaucoup de sympathie pour les Turinois. Et c'est dit par différents auteurs, si vous voulez, de la littérature italienne. Pas trop nombreux, mais il y a souvent des voix populaires qui aboutissent à la littérature, qui parlent mal de cette emprise que les Savoies ont eue sur l'Italie.
D'ailleurs, on dit que les Savoies ne parlaient pas l'italien. Les premiers rois turinois ne parlaient pas bien l'italien. C'est vrai, ça, ou c'est une légende?
Lesquels, les premiers? Parce que ça commence pas trop.
Oui, non, ceux qui sont devenus rois d'Italie.
Quand même, enfin, non, je crois qu'à partir de Cabourg, à partir de 1800, enfin, ils savent parler italien. C'est vrai qu'ils ont toujours eu tendance à se reporter davantage sur la culture et l'influence française pour des tas de raisons. Mais je pense qu'à partir du moment où les Savoies veulent rentrer dans la politique internationale, ils sont obligés, en quelque sorte, d'épouser une cause à créer qui sera celle italienne plus tard, en fait. Voilà.
D'ailleurs, à propos de langage, quel langage emploie Don Fabrizio dans le roman en italien, je veux dire? Est-ce que Lampedusa lui fait employer un parler très affecté, très daté?
Non, c'est très simple, tout à fait... tranquille, enfin, je dirais même bourgeois, mais en même temps, c'est une langue fine, mais pas raffinée, en fait. Bon, c'est pas un pédant, c'est pas un docte, non, c'est un homme un peu quelconque. Le roman essaie de retrouver la modestie d'une vie, en quelque sorte, à l'intérieur d'une grandeur qui n'appartient pas vraiment à l'être intime, en fait. C'est quand même un roman de du Risorgimento. Hein. C'est le seul roman du Risorgimento. C'est vrai qu'il y a eu les Confessions d'un Italien de Ippolito Nievo, mais sinon, le Risorgimento n'a pas eu un roman. Et presque involontairement, ce que fait Tomas de Lampedusa, c'est de proposer ce roman qui explique la manière dont s'est créée cette unité italienne et cette politique italienne, déjà embourbée dans un vote où on va tricher. Hein. Et vous vous souvenez que le chasseur qui accompagne le prince va vivre ça très mal, puisque d'emblée, dès sa naissance, la démocratie est foutue.
Il faut dire là, à propos de politique, que si Don Fabrizio, lui, est très conservateur, c'est le prince de Salina, on ne peut pas oublier évidemment son neveu Tancrède, qui lui est beaucoup plus politique.
Mais ce sont deux aspects différents. Le prince ne peut être que noble. Il n'est même pas politique. Il y a une espèce d'héritage constant qui fait qu'il ne peut pas prendre part. Il est royaliste, il restera fidèle à son roi. Il n'est pas monarchiste parce qu'il en a décidé ainsi, mais parce que ça lui est tombé dessus. Hein? Et alors que, justement, Tancredi peut épouser cette nouvelle bourgeoisie qui va s'enrichir aux dépens, d'ailleurs, de cette de ces princes, de ces barons, de ces marquis, etc.
Et, car il faut dire que Tancrède épouse, tout le monde le sait, mais peut-être pas, épouse cette jeune fille qui est elle-même la petite fille d'un paysan des terres du prince qui était si sale qu'on l'appelait Pépémère.
Oui, voilà. Vous avez tout dit, alors. effectivement, Tancrède, qui a perdu déjà avant le prince tous ses avoirs, en fait, il est nourri par le prince en quelque sorte, cherche un bon parti, un bon mariage, un mariage riche, et donc il va choisir la fille de ce représentant de la nouvelle bourgeoisie sicilienne, mais qui est capable de devenir plus national. Même si la nation n'existe pas encore.
Et c'est là que Tancrède a cette phrase qui est devenue très célèbre, probablement plus grâce à Visconti qu'il a mis dans la bouche de Delon, mis en valeur dans la bouche de Delon dans son film, que dans le roman où elle n'est pas particulièrement en valeur. Et cette phrase, c'est...
Elle est quand même dite deux fois. Hein, si on veut que tout change, il faut que tout... Si on veut que tout reste comme c'est, il faut que tout change.
Et en italien, ça fait...
Ah, je ne sais pas. J'ai oublié, les mesures doivent se donner justes, enfin exactes.
Et donc, Tancrède dit ça, et finalement, le prince, aussi conservateur soit-il, c'est là où il est intéressant, c'est qu'il l'accepte.
Mais oui, parce que il y a une résignation chez le prince. Qui est presque une forme de nihilisme, en quelque sorte. Et donc, cette acceptation, il comprend très bien que c'est une dialectique très particulière, cette phrase. Il faut que tout, changer tout pour que tout reste. Il y a une dialectique très particulière, et c'est ça qu'il épouse. Mais je ne suis pas d'accord quand vous parlez de lui comme un conservateur. C'est ça qu'il l'est moins. Il l'est moins que Sadara, il l'est moins que Tancrède, en fait.
Il est moins que Tancrède?
Ah ben oui. Spirituellement, il n'est pas conservateur.
Il est quoi?
Mais c'est quelqu'un qui a hérité ça, et qui ne peut pas s'en délester. Voilà.
Ou alors on peut dire qu'il a l'intelligence suprême du conservatisme quand il est intelligent, c'est qu'il accepte le changement.
Voilà. On parlerait d'un siècle des Lumières, dans un endroit où ça n'a jamais eu lieu, en fait.
En même temps, est-ce qu'il n'a pas une espèce de, ce prince, une espèce de snobisme de « je serai le dernier des Mohicans » car quand même, il y a une scène très importante du roman où, quand le nouveau régime est installé, il refuse de devenir sénateur.
Ben oui, justement, parce que ça serait quitter ce monde d'héritage étrange, en fait, pour accéder à une fonction qui l'obligerait quand même à travailler, par exemple, hein. La noblesse ne travaille pas, pas question. Mais ce n'est pas fait avec arrogance, je veux dire. Il ne faut pas quand même oublier une chose, c'est que le guépard est d'abord l'histoire d'un homme qui saisit le moment où il commence à vieillir. Et c'est la notation presque quotidienne, pendant un an, de cette lente évolution vers la mort.
Il commence à vieillir, mais il ne faut pas oublier la part de sensualité du prince qui est très importante. Car il est peut-être même un peu amoureux de la femme de Tancrède. Il y a cette étrange armoire qu'on ouvre dans un placard où on trouve des fouets. Et donc on se dit qu'il a des goûts...
Ça, c'est les ancêtres.
Ça, c'est les ancêtres.
C'est les ancêtres.
Est-ce que lui ne les a pas? Il va voir des prostituées.
Ah ben ça, oui, parce qu'il explique au prêtre, d'ailleurs, qu'il ne peut pas faire l'amour avec sa femme, qui chaque fois se signe, en fait.
Mais il a quelque chose de dégoûté, ce prince, non? Il est toujours dégoûté. Il est un peu... Il est entre l'amertume et le dégoût.
C'est de l'élégance, je dirais. C'est pas du dégoût.
C'est pas du dégoût?
Non, c'est de l'élégance. Et c'est très étrange, comme moi qui n'aime pas beaucoup l'adaptation de Visconti, je trouve que Burt Lancaster a très très bien joué ce rôle, justement, dans cette distance qu'il a avec les choses... du quotidien ou terrestre, cet écart, cette moquerie aussi très fine. Il prend son bain en face du prêtre, enfin, de son confesseur. Il l'oblige même à l'essuyer un peu.
Enfin, oui, oui, oui.
Donc, il y a quand même une ironie très forte dans ce personnage. Ce sont toutes des qualités propres à un certain monde où on... On ne saisit pas les choses puisqu'on
on les a déjà,
on nous les a données avant.
Nous allons maintenant entendre un extrait de la mazurka de ce film que vous n'aimez pas beaucoup, Jean-Paul Manganaro, c'est par Nino Rota. Jean-Paul Manganaro, nous parlons donc de Don Fabrizio du Guépard depuis tout à l'heure. C'est le roman d'un personnage, c'est le roman d'une époque, mais est-ce que vous diriez aussi que le Guépard n'est pas une espèce de pamphlet affectueux sur la Sicile ?
Non, c'est une méditation douloureuse sur la Sicile. Il y a tout un passage où c'est vraiment Thomas de Lampedusa qui écrit. Et ce n'est pas interprété par les pensées du prince, où il retrace très brièvement une histoire amoureuse de la Sicile, hein, de tout ce que cette force, cette violence qui va aboutir lentement à ce côté indomptable de la force de la nature en Sicile. Je dirais donc que c'est plutôt un parcours narratif de douleur amoureuse, enfin bon.
Parce qu'en fait, il est quand même dit que la Sicile est immuable, inchangeable, et qu'on ne pourra jamais la changer. Il ne le dit pas avec plaisir.
Non, il ne le dit pas avec plaisir, il le dit avec fatalité. Mais c'est ça son côté nihiliste, enfin. Je crois que c'est vraiment autobiographique chez Thomas de Lampedusa. C'est aussi. Le résumé de tout ce qu'on a dit sur la Sicile dans les siècles, y compris au début de la nouvelle unité italienne. Enfin, la Sicile a été accablée de beaucoup de torts, et je dois avouer qu'on ne peut pas travailler avec 43 ou 44 degrés de chaleur, en fait.
Et d'ailleurs, oui, il fait souvent chaud dans le film, et ça, c'est une des. Dans le livre, pardon. Et c'est une des choses qui est aussi bien montrée dans le film au moment de la scène du bal où on voit les acteurs transpirer, Delon et Burt Lancaster transpirer. Il fait chaud tout le temps et on ne peut. D'ailleurs, et une des plus belles scènes du roman, à mon sens, c'est la scène de la mort du prince, non ?
Oui. Et là, ça rejoint le professeur et la sirène.
Expliquez-moi. Donc le professeur à la sirène, qu'est-ce que c'est ?
Le professeur à la sirène, c'est le professeur de grec en ancien.
C'est un autre texte.
C'est une nouvelle magnifique qui tombe amoureux d'une sirène. Ils ont une relation pendant 2 mois et toute sa vie, il va vivre dans cette attente de retrouver la sirène et il fait un voyage en mer et il se jette par le bateau, en fait. C'est même pas de dire comme ça, mais enfin, il rejoint la sirène. Et le prince meurt devant la mer, en fait. Il meurt devant les fenêtres ouvertes sur la mer, dans ce scintillement lumineux qui rappelle un peu les étoiles, quand même. Et englouti, lui aussi, par une femme très belle qui s'approche.
Oui, il a une vision. Hein,
voilà, il a une vision. Donc il y a un parallèle entre ces deux morts. Hein.
Ce qui est amusant, c'est que, si on peut dire, c'est que la mort décrite par Lampedusa est une petite femme à voilette avec une main gantée qui s'avance, comme ça. Voilà quelle est la mort.
Ça doit être le summum de son élégance esthétique, enfin, je ne sais pas.
Et d'ailleurs, vous le disiez, vous l'évoquiez, la ressemblance avec le professeur et la sirène aussi, que la dernière phrase est une phrase sur le bruit. Il dit « le vacarme de la mer, c'est ça ».
Oui, oui. Le vacarme, ou moi j'aime beaucoup le fracas de la mer.
Le fracas de la mer.
Oui, je trouve ce mot fort dans son terrible, en fait.
Il faut dire que Don Fabrizio meurt, c'est donc le dernier des princes, mais ça n'est pas le dernier des Salinas, car il existe une nouvelle, justement, Le professeur et la sirène, où il y a un Salina encore. Donc la famille n'est pas éteinte, au contraire de la famille de Lampedusa. Car Lampedusa a adopté des enfants, mais n'a pas eu d'enfants.
Il n'a pas eu d'enfants, non, ça, la famille s'arrête avec lui, en quelque sorte, oui. Sauf que les titres sont transférables, là. L'Italie a encore un régime aristocratique.
Ah bon, on peut hériter les titres ?
Ah ben oui, et on n'hésite pas à le faire, d'ailleurs.
Alors, il y a une chose intéressante, c'est que ce livre qui a été immédiatement un succès a été publié posthume, après la mort de Lampedusa, et que d'abord, Lampedusa étant malade, l'a envoyé dans des maisons d'édition en Italie, et qu'il a été refusé par un romancier communiste alors célèbre, qui s'appelait Elie Vittorini, chez Einaudi. Et parce que c'était pris, ça a été pris pour un manuscrit réactionnaire et des temps anciens, et d'apologie des temps anciens.
Ben oui, c'est les détours étranges de l'histoire. Vittorini était quelqu'un d'extrêmement intéressant, mais il ne pouvait pas accepter ce roman, en fait. Il y a eu cette considération un peu rapide en Italie, à un moment donné, de penser que Le Guépard était un roman réactionnaire, effectivement. Mais ça, c'est parce que nos civilisations sont dérangées par le manichéisme. Enfin, on cherche absolument le bien ou le mal, alors que ce n'est pas ça. C'est l'histoire. Un point, c'est tout. C'était une époque très différente. Bon, mais en même temps, ça a déterminé le succès du Guépard.
Sauf que le malheureux Lampedusa, qui lui était prince, est mort en apprenant le refus et n'a jamais su que son livre serait pris. Il a été accepté après par Giorgio Bassani, je crois, chez Feltrinelli.
Oui, mais comme je vous le disais, les princes sont éternels. Donc il l'a entendu dans son éternité, peut-être.
Jean-Paul Manganaro, qu'est-ce que vous a appris le personnage de Don Fabrizio ?
À mesurer... L'incertitude du temps, oui, c'est ça. Ce glissement du temps qui peut être à la fois douloureux et mortel, en tout cas. Voilà. C'est cette évaluation entre l'éternité et l'immortalité qui m'intéresse beaucoup chez le prince du Guépard.
Le mot éternité est d'ailleurs dans la scène du bal où il dit, le prince dit, je crois, la seule chose qu'on ne peut pas critiquer, il n'emploie pas le mot critiquer, mais quelque chose comme ça, c'est l'éternité.
Oui. Mais, c'est très différent. L'éternité appartient aux dieux, l'immortalité aux humains. L'immortalité implique une origine, l'éternité non. Et donc le prince s'inscrit dans une éternité et dans une considération étrange du temps. C'est ça qui me... cette suspension qui m'intéresse beaucoup.
Une suspension comment ? Il est...
Ça n'existe pas en même temps. Donc on travaille sur ce rien qui est constant chez le prince. Aimer les étoiles... c'est pas un monde de matière, en fait, où c'est une matière tout à fait particulière, une matière mentale. Et donc, le temps rejoint cette matière mentale.
C'était Personnage en personne, le 13e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage du Baron de Charlus, créé par Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral. Prise de son, Georges Thau et Yves Lehorse. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces